Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Les petits et leurs parents la connaissaient de longue date comme la maman de Nonon l'ornithorynque, du caribou Jean-Michel, du chien Paco et de quelques autres personnages comme Bertille Bonnepoire. Et voici que Magali Le Huche signe sa première bande dessinée adulte, ou en tout cas en solo. Enfin adulte si on peut dire, car ce récit nous parle d'elle, de la petite Maga, 11 ans, paralysée par la phobie scolaire et qui va être sauvée, il n'y a pas d'autre mot, par un coup de foudre pour quatre garçons, pas moins, dont la musique va lui redonner des couleurs. Quatre garçons dans le vent, venus de Liverpool, qu'elle dessine en train de traverser la rue de l'adolescence sur un passage piéton. Ça vous dit sans doute quelque chose. Nowhere Girl de Magali Le Huche est paru chez Dargaud et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Magali Le Huche.
Bonjour.
La petite fille que vous mettez en scène à 11 ans. Quand l'album débute, elle entre en sixième, elle est plutôt motivée, vive, pétillante, elle est plutôt contente, en plus elle est dans la même classe que sa copine Agathe. Et en quelques pages, tout se dégrade. Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'avais pas mesuré le fossé entre l'école, la primaire et le collège, et que j'ai tout d'un coup réalisé que je quittais l'enfance. Donc j'ai tout projeté sur cette entrée au collège où tout d'un coup les bâtiments sont plus grands, on a plusieurs professeurs qui nous vouvoient, la pression n'est pas la même, le rôle avec les autres, le rôle avec les adultes, la place qu'on a dans la vie, dans la société, tout d'un coup bascule de manière très différente. Et c'est vrai qu'à ma place d'enfant, j'ai vécu ça comme un choc, quoi, parce que je me souviens me dire, mais il y a quelques mois, j'étais encore une petite fille, aujourd'hui, je sais plus ce que je suis. Voilà.
Et puis, il y a cette professeure de français qui exige que chacun des élèves apprenne par cœur le livre de grammaire. C'est vrai, ça?
Ah oui, c'est complètement vrai.
Vous avez rien inventé?
Ah non, j'ai rien inventé. Elle est assez traumatisante, cette professeure. Après, bon, je pense que ça fonctionnait certainement chez des élèves, mais moi, ça me tétanisait. C'est-à-dire que je comprenais rien de ce que j'apprenais, et surtout, j'apprenais pour lui faire plaisir, on va dire. J'apprenais pas pour moi, quoi. Enfin, c'était tout le problème et tout ce qui a fait que j'ai pas réussi, que j'arrivais pas à comprendre et que j'ai fait cette phobie scolaire. C'est que j'avais pas encore compris que j'allais à l'école pour moi, en fait.
Alors, la phobie scolaire, c'est un problème finalement relativement banal. Ça arrive pas à tout le monde, mais quand même.
Heureusement,
et
ouais.
Pourtant, on en parle assez peu dans la littérature ou dans la bande dessinée. Vous avez une explication?
Je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir. Honnêtement, c'est vrai que j'ai pas lu de bande dessinée ni de. Il y a Chagrin d'école de Daniel Pennac qui parle très bien de l'école et de ses souffrances et de. Moi, j'ai adoré ce livre aussi. Ça m'a fait du bien de le lire et du fait d'avoir des difficultés à comprendre et à. Moi, j'étais pas forcément mauvaise élève, mais j'avais extrêmement peur de l'être, en fait.
Oui.
Et je me mettais moi-même une pression par peur d'échec. Au regard des professeurs, en fait.
Au regard des professeurs, et pas tellement des camarades de classe ou des parents.
Eh ben, c'était un tout. Alors, il y avait, je pense, beaucoup d'angoisse par rapport à mon rapport avec les professeurs et si j'allais y arriver ou pas. Et puis, forcément, au collège, les élèves entre eux sont un peu cruels parfois et la moindre faille est très vite mise en avant. Enfin, c'est pas un âge évident, quoi. C'est pas un âge confortable.
Alors si je vous avais demandé de dessiner la phobie scolaire, vous auriez eu aucun mal à le faire parce que vous l'avez formalisé. la phobie scolaire, vous l'avez formalisé à travers le sac à dos
de
la petite fille,
c'est
qui
ça.
Grandit petit à petit au fil des pages. Il grandit vraiment à vue d'œil jusqu'à devenir absolument énorme, jour après jour. Métaphore à la fois très simple et très efficace de ce malaise qui grandit. Elle porte vraiment son mal-être sur les épaules. Hein. Elle devient anxieuse. Elle se terre dans sa solitude. Et au départ, les parents, ils comprennent pas vraiment. Et on peut même dire qu'eux aussi participent au malaise, parce que eux aussi, ils sont écrasants, d'une certaine façon. Et ça se voit même graphiquement.
Ouais, c'est-à-dire que, mes parents, ils avaient un métier où ils s'occupaient des maux des autres. On va dire, ils étaient passionnés par leur métier. Mon père était phoniatre, ma mère psychanalyste, et c'était un métier qui les rassemblait, qui les faisait travailler tard et beaucoup. Donc
ils auraient pu être à l'écoute du malaise de leur petite fille.
Finalement, ils ont fini par l'être vraiment, mais je pense que moi, j'avais développé une sorte de jalousie de leur passion, c'est-à-dire de leur sujet, du fait qu'ils parlaient de cas. Voilà. Il fallait, je pense inconsciemment chez moi, je me suis dit, mais moi aussi, je vais être un cas pour qu'ils s'occupent de moi. Je pense que j'étais un peu en manque de mes parents, quoi. Et puisque c'est typique quand on de la séparation, j'avais un problème de séparation, quoi, vraiment, de quitter l'enfance et de perdre mes parents, enfin voilà. Et donc je l'ai complètement projeté sur là-dessus, quoi, sur ouais. l'école et sur en effet sur leur sujet, leur.
Et vous les dessinez en train de parler. Alors il y a des flots de langage, il y a des bulles absolument énormes avec donc vraiment vous écrivez à l'intérieur, on comprend pas forcément tous les mots, on a vraiment l'impression d'une sorte de gloubi-boulga de mots comme ça, comme si le discours, leur conversation, souvent très intello, écrasait la petite fille que vous êtes.
Ben oui, je pense que ça devait m'impressionner. Je me sentais peut-être pas à la hauteur des cas dont il parlait avec des mots en hic, blabla hic, parce que j'appelais ça blabla hic, parce que il y avait plein de mots, des gros mots, comme on ironise aussi des fois avec ma sœur. Ils ont toujours aimé avoir des débats, et souvent c'était le soir à table, et c'était le soir où on se rassemblait, et c'est vrai que je pense que j'arrivais pas à trouver ma place là-dedans, par moment.
Donc il y a le flot de paroles écrasant des parents, et puis donc il y a cet immense sac à dos qui représente effectivement cette phobie scolaire. Là, on est dans la première partie de l'album, Magali Le Huche. Mm-hmm. Vous l'avez dessiné, cette première partie, en noir et blanc, avec quelques traits de cheveux roux et quelques aplats de rose. Ouais. Le rose, pourquoi ? Il fallait faire un peu girly, ou bien c'était pour donner une couleur quand même, malgré tout ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, j'aime le rose.
Mais c'est déjà une bonne raison.
Voilà, moi, c'est vrai que je trouve que c'est une couleur, en tout cas. En plus, là, il y a un petit fluo dedans. Je trouve que ça se marie super bien avec le noir. Enfin, j'aime bien. Mais je crois qu'en parlant de cette histoire, je me suis dit à un moment donné où il fallait que je sorte de mon petit nuage rose. Vraiment, le petit nuage rose de... Même si je suis persuadée que l'enfance, c'est pas tout rose. C'est dur, l'enfance. Enfin, je veux dire, on a des vrais questionnements, des angoisses. C'est pas que rose du tout. Mais il y avait quelque chose avec cette couleur qui est quand même chaude et forte. C'était une évidence graphique, déjà. Et puis, ça allait bien avec cette idée du nuage rose... dans lequel j'aurais voulu me réfugier, certainement.
Et puis un jour, la couleur, ou plutôt les couleurs, arrivent et explosent. Les Beatles, Good Morning, Good Morning et A Day in the Life, hein, deux chansons de l'album Sgt Pepper. C'est ce que la petite Magali, vous-même, Magali Le Huche, c'est ce que la petite Magali entend à travers les murs de sa chambre. C'est sa grande sœur, Amélie, Amé. Qui passe le disque. Qu'est-ce qu'elle ressent, la petite Maga, à ce moment-là ?
Alors la première chanson, c'était Good Morning, Good Morning, qui m'a complètement interpellée. Parce que à la fin, il y a une espèce d'arrivée de basse-cour. Il y a des chiens qui aboient, des poules. Et en fait, je pense que ça a éveillé ma curiosité, parce que il y a comme une fraîcheur qui tout d'un coup se transforme en angoisse un peu. Il y a quelque chose de très bizarre. Ça m'a intriguée. Ça m'a intriguée, ça m'a fait peur en fait. C'est marrant, au départ j'ai eu peur, je me suis dit qu'est-ce que c'est, il y a des chiens. Enfin, j'étais tout d'un coup dans une sorte de... comme si un monde imaginaire était là dans la pièce en son quoi. Enfin, il y a quelque chose qui m'a vraiment percutée dans un tout d'un coup un imaginaire qui s'imposait à moi par la musique. Et donc après, il y a eu Dance the Life, et là, j'ai eu un coup de foudre. J'étais subjuguée. Je fais référence à Alice au Pays des Merveilles.
Oui, parce que vous illustrez effectivement toutes ces la réaction qui est la vôtre dans une double page. Alors là, avec des couleurs vives, hein, là, il y aura une forme d'explosion de couleurs, et il y a effectivement des personnages qui nous font penser aux personnages de Lewis Carroll et d'Alice. Elle passe de l'autre côté du miroir, comme ça, la musique.
Mais quelque part, oui, parce que je pense que à ce moment-là, j'ai découvert que la musique avait un impact global sur moi, quoi, sur mon cerveau, sur mon corps, parce que c'est ça la musique, il y a ce pouvoir-là. Et puis un pouvoir sur les émotions, enfin, ça m'a touchée, quoi. Et en effet, je pense que j'ai tout de suite eu des images. En fait, il y a ça chez les Beatles, ce rapport. Ils flirtent avec l'enfance et en même temps quelque chose, une bizarrerie, une étrange gaieté qui m'a en même temps attirée parce que ça faisait référence à des choses de l'enfance. Et en même temps, il y avait une étrangeté du monde adulte. John Lennon était très fan du nonsense et de Lewis Carroll, d'Edward Lear. Et je pense que le fait que je ne comprenne pas les paroles non plus, que je sois j'étais plus dans le hamad, le gros sac de gros mots de mes parents, mais dans un univers instrumental où les mots faisaient partie de la musique et je planais dans un tourbillon plutôt agréable.
Ouais, et par la suite, hein, dès que Maga écoute les Beatles, il y a une forme comme ça de jaillissement chromatique, de fantaisie. On est dans un univers complètement psychédélique. Les clips, les pochettes des Beatles vous ont guidé aussi dans la façon d'illustrer ces moments-là?
Oui. En même temps, j'ai essayé de pas trop me coller aux images. Forcément, je fais référence dans la couverture à Bay Road, mais je voulais essayer de voir moi qu'est-ce que je ressentais quand j'écoutais, même aujourd'hui, pour faire ces images. Qu'est-ce qui me venait à l'esprit? Qu'est-ce que ça m'évoquait? Et sans forcément coller, je voulais pas forcément faire l'univers de Yellow Submarine ou de enfin voilà, je préférais m'inspirer finalement de Lewis Carroll et de me rappeler de mon monde intérieur imaginaire à moi. Voilà, et c'est vrai que les Beatles, je pense, m'ont ouvert des perspectives créatives parce qu'ils ont cette créativité immense. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green.
Le sous-marin jaune des Beatles, on le retrouve dessiné sur la quatrième de couverture, Magali Lehuche, avec votre personnage à son bord. Il faut dire que vous avez fait de ce petit submersible un véritable véhicule de narration, quoi.
Mais oui, c'est vraiment comme la porte d'évacuation, on va dire. Je passe par le sous-marin pour fuir la réalité, quoi.
Oui, c'est le véhicule du rêve, et c'est en même temps une sorte de cocon, une sorte de doudou aussi.
Ah ben complètement, je pense que je cherchais complètement un cocon. Et d'ailleurs, je pense aussi que j'ai choisi les Beatles parce que c'est un groupe qui existait quand moi j'existais pas, et que moi qui voulais pas grandir, c'était aussi une façon d'arrêter le temps.
Ouais.
Donc je pouvais retourner en arrière, quoi.
Parce que votre génération, c'est plutôt la génération Patrick,
c'est
la génération Boulmania, quoi.
Ouais, complètement.
D'ailleurs, vos copines, elles comprennent pas.
Ah ben non, et puis après, il y en a aussi qui aimaient bien, mais moi j'étais vraiment pénible. À vrai dire, j'étais complètement obsessionnelle et obsédée des Beatles.
Ah oui, c'est incroyable.
Donc du coup, je pense que j'ai réussi à faire que certaines copines ne veuillent plus écouter les Beatles. Parce que
vous êtes partie en guerre, quoi, quand même. Hein.
Ah ouais, vraiment.
Bon, il y a une case incroyable. Il y a un oncle qui ose dire qu'il préfère les Stones.
Ça me rendait zinzin, bien sûr. Mais je pense que j'avais en plus super peur. J'avais vraiment cette tristesse j'avais peur qu'on les oublie. J'avais peur qu'on les aime plus. Et quand quelqu'un pouvait faire faire des critiques ou avoir l'idée, enfin voilà, de me dire qu'ils, bon, ils aimaient moyen, ça me rendait vraiment extrêmement triste. J'avais comme une mission.
Vous écrivez aux radios pour qu'ils passent davantage de Beatles. Ouais. Vous creusez vos semelles pour en faire des pochoirs avec le Beatles. Ouais. C'est incroyable. Vous avez rien inventé pour la BD.
J'ai rien inventé.
Dans la créativité graphique, mais pas du tout.
Non, tout est vrai. J'ai rien inventé. Après, j'ai écrit. Forcément, ça devient autre chose quand on commence à écrire, à dessiner. Mais ça part de choses vraiment que j'ai vécues, quoi.
Oui. En même temps, ce petit côté groupie, vous l'expliquez dans la première partie de l'album. Vous l'aviez déjà un petit peu parce qu'il y a d'autres héros comme ça que vous avez aussi adulé.
Je pense que j'avais.
Pas à ce niveau-là, mais quand même.
Oui, mais je pense que j'ai encore un fond groupie. J'ai besoin d'admirer. J'ai besoin de. Je sais pas, il y a des choses qui me font vibrer, quoi. Et puis, je le vis fortement. Alors maintenant, je me connais mieux. J'essaye de mesurer. Hein, mais en effet, j'avais déjà ça avant les Beatles, ouais.
On peut dire, Magali Lehuche, que vous êtes guérie de la phobie scolaire par une addiction?
Oui. On peut dire ça. Alors on peut dire que et en même temps ça m'a guéri parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que les Beatles m'ont ouvert des perspectives de création. Alors évidemment les Beatles, c'est un monument, c'est complètement incroyable. Mais moi, tout d'un coup, je me suis dit, mais on peut faire quelque chose en étant créatif. Je me suis dit, c'est ça, je veux faire quelque chose dans la vie où je peux être créative et transmettre des histoires, des images.
Ce qui a débouché sur le dessin.
Voilà, c'est ça. En fait, ça m'a donné un peu d'espoir, quoi. Je me suis dit, mais c'est tellement génial de pouvoir faire enfin, moi, j'ai pas fait de musique, mais j'ai trouvé mon outil qui est le dessin assez rapidement. Et je pense que ça m'a vraiment aidé. Cette perspective-là m'a vraiment aidé, quoi.
Oui, parce que le retour au lycée se fait dans un établissement spécialisé en art appliqué. Ouais. Alors, il y a dans l'album des dessins dont on se dit qu'ils auraient pu être des dessins d'enfants. Vous avez pensé à ça? Un petit peu plus tard, justement, lorsque vous mélangez votre vie avec les Beatles.
Les dessins que je fais à la fin. Après, moi, j'ai vite été. C'est marrant parce que très vite au lycée, au collège, au lycée, quand j'ai commencé le lycée, du coup, avec une option art plastique un peu lourde, j'ai très vite été attirée par les contes et les livres pour la jeunesse. J'avais l'impression que par ce biais-là, on pouvait parler de beaucoup de choses, avec décalage, avec dérision, et ça m'a tout de suite plu. C'est vrai que je pense que dans les premiers dessins où je fais le lien avec le passage ou la sortie de comment dire mon retour à la vie dans le réel, je me suis après pas mal accrochée à cette idée de faire des histoires et des livres pour la jeunesse.
Mais dessiner pour les enfants et pour un public un peu plus adolescent et adulte, c'est la même chose?
Non. Après, c'est vrai que moi, naturellement, j'ai commencé à écrire et c'est des livres pour la jeunesse qui sont naturellement arrivés. Je sais pas si on décide de faire il y a un sujet d'histoire et puis on se dit, ça sera un livre pour la jeunesse, mais je me suis pas dit je veux faire des livres pour les enfants uniquement. Moi, j'ai l'impression qu'un livre réussi, c'est un livre qui peut être lu par tout le monde, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Après, faire une BD toute seule là comme ça pour les adultes, ça demande d'autres questionnements. C'est pas du tout le même rapport texte-image, donc je me suis pas posé les mêmes questions. Et puis là, je me mettais à nu, donc c'était pas les mêmes sujets. C'est pas les mêmes questions, quoi.
Merci beaucoup, Magali Lehuche, d'avoir fait un petit détour par le studio de VMDN.
Merci
à
vous.
Nowhere Girl chez Dargaud, clin d'œil à Nowhere Man qu'on écoute tout de suite. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what Nowhere Man dans VMDN sur RFI, les Beatles évidemment.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec nos quatre scarabées à nous cette semaine, d'abord deux garçons dans le vent, Alain Pilot et José Marigno, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour.
Et deux filles dans le vent, évidemment, Amélie Beaucourt et Fanny Blechner.
Bonjour Jean-François.
Voilà, Fanny qui est descendue d'un étage après son journal. Un café gourmand très, très musical hein, cette semaine, avec non pas quatre, mais cinq garçons dans le vent, José.
Oui, ils sont français, parisiens. Ce Chatterton, un retour incroyable avec un album très rock. Une nouveauté, un peu d'électro.
Également au programme du Leonard Cohen en BD, Fanny.
Ah oui, chanteur et poète de génie, il s'est éteint il y a 5 ans. Dans sa BD intitulée Leonard Cohen sur un fil, le Québécois Philippe Girard revient sur la vie de l'artiste, ponctué de rencontres amoureuses, de recherches spirituelles et d'excès, sans manquer bien sûr d'évoquer ses plus grands titres, Alléluia, So Long Marianne, ou encore Hey, That's No Way to Say Goodbye.
Et puis avec vous, Alain, une autre Canadienne, une Québécoise plus précisément, qui rêve de s'ouvrir au monde.
Berriz publie son second album Encounter et nous l'avons donc rencontré. Disque qu'elle aimerait emporter sur scène sur les quatre autres continents, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Nouvelle-Zélande.
Je vais revenir, tu verras. On va se marier et on aura de superbes enfants.
Je ne crois pas au conte de fées.
Mais moi, j'y crois.
Alors, si vous êtes fan de telenovela comme José ou si vous adorez vous en moquer comme Fanny, ce livre est fait pour vous. Alors ne vous laissez pas distraire par son titre, hein, Les six fonctions du langage, du nom de la théorie linguistique de Roman Jakobson. Rien à voir avec un essai barbant, Amélie, ce livre promet des mots, de l'action, de la lascivité et du suspense. Et il est signé Clémentine Mélois, qu'on avait d'ailleurs reçu dans l'émission il y a quelques temps pour son goût des calembours et des détournements de couverture de romans.
Oui, ça donnait Moby Dick d'Herman Melville, Père et Guet de Tolstoï ou Légumes des jours de Boris Vian. Cette fois, elle revient avec quelque chose que vous connaissez sûrement, Jean-François, puisque vous êtes abonné à nous deux magazines, le roman photo. Mais toujours au second degré, évidemment, Clémentine Mélois a réuni 17 petits romans photos brésiliens des années 60 et 70 qu'elle a découpés puis recolorés pour accentuer un peu le kitsch. Mais pourquoi avoir choisi cette forme-là ?
Tout simplement parce que ce sont des images très très colorées avec des modes qui sont aujourd'hui un petit peu passées. Il y a des pantalons pattes d'éléphant, il y a des rouflaquettes, il y a des moustaches. Voilà, donc ça c'était intéressant pour moi de créer un décalage entre cette esthétique un peu désuète et puis le langage très très contemporain d'aujourd'hui.
Oui, un exercice qui aiguise la créativité qu'on vous recommande si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants ou avec vos collègues de travail aussi. On reconnaît bien là d'ailleurs, Amélie, le côté Oulipo de Clémentine Mélois.
Exactement, puisqu'elle est membre de ce groupe d'écrivains qui s'impose des contraintes pour écrire, comme l'avait fait Georges Perec en écrivant tout un livre sans utiliser la lettre E. Et ici, autre contrainte qu'elle s'est imposée en plus des images, c'est de représenter chacune de ces six fonctions du langage. Bon, on va pas revenir dessus, vous les connaissez, Jean-François, métalinguistique,
oui.
Fatigue, etc.
Cognitive, oui.
Exactement, chacune de ces six fonctions à travers une petite histoire.
L'idée de ce livre n'était pas de réprouver la façon dont on parle aujourd'hui en disant que la langue française est terriblement maltraitée. Simplement, j'aime bien toujours faire un pas de côté. Et c'était une façon d'être attentive au langage tel qu'il est parlé aujourd'hui. Dans les années 60, on pouvait dire c'est sans sas, ou alors dans les années 90, on disait c'est chamé, c'est chamax. Les personnages de mon roman photo disent des choses d'aujourd'hui, peut-être que ce sera périmé plus tard, mais ils disent des choses comme j'avoue, clairement ou carrément, du coup, c'est genre que du bonheur. Alors, bon, ça m'amuse, j'ai moi-même des tics de langage. Je dis beaucoup trucs, je dis beaucoup bizarre, je dis beaucoup j'avoue, je dis aussi j'avoue. Mais c'est comme ça, on a différents registres de langage et voilà.
C'est vrai qu'en tournant les pages, hein, l'absurdité de certaines tournures nous saute aux yeux, comme vient de le dire Clémentine Mélois, j'avoue alors qu'on n'avoue rien du tout. Mmh. Ou, et c'est une scène du roman photo, indiquer au serveur par exemple que vous allez partir sur du fromage avant le dessert, oui, ne veut pas dire que vous allez sortir du restaurant en chevauchant une bûche de chèvre, évidemment.
Certes.
Bref, toutes ces expressions un peu ridicules, mais qui amusent beaucoup Clémentine Mélois.
Alors elle a aussi caché dans son livre des clins d'œil, hein, plusieurs références littéraires.
Bah oui, c'est Clémentine Mélois, elle peut pas s'en empêcher. Hein. Elle a par exemple caché le sémiologue Roland Barthes sous les traits d'un homme qui ressemble à la fois à Jean-Claude Duss et Philippe Martinez. Elle a aussi fait draguer un homme en ne citant que du Danny Briand ou du Francis Cabrel. Et elle va jusqu'à cacher des références sur la quatrième de couverture, sur laquelle figurent par exemple deux critiques, l'une de Roman Jakobson, le véritable auteur des six fonctions du langage, et Ludwig Wittgenstein, un philosophe des langues, qui visiblement n'ont pas du tout aimé le livre de Clémentine Mellois.
Évidemment, tous les deux sont morts depuis bien trop longtemps pour l'avoir lu. C'était aussi un clin d'œil à un recueil de nouvelles de Roland Topor que j'aime beaucoup. Et la quatrième de couverture de ce recueil de nouvelles de Topor comporte une seule critique épouvantable qui émane du club des bibliothécaires et qui dit « Ce livre inutile n'a pas sa place dans nos bibliothèques ». Donc j'ai repris cette critique. En revanche, pour tempérer un petit peu, et pour m'amuser, j'ai mis une critique de ma maman qui dit « Moi, j'ai bien aimé ». Voilà, donc c'était une façon de jouer sur les codes du livre. J'aime toujours mettre des petits clins d'œil, un petit peu comme des œufs de Pâques qu'on cacherait dans le jardin. On n'est pas obligé de les voir, mais si le lecteur s'amuse à regarder toutes les petites mentions qu'il y a dans le livre, j'aime bien l'idée qu'il puisse s'en amuser et puis trouver des petites choses cachées comme ça.
Les six fonctions du langage, un roman photo de Clémentine Mellois, un ouvrage paru aux éditions du Seuil. C'était Chambé. Merci Amélie. Une chanson qui sonne comme une invitation au Palais d'Argile. Le troisième album de Feu Chatterton, José, dès sa sortie, le nouveau disque du quintet parisien a été encensé par la presse musicale.
Un vrai coup de maître, un coup de maître commencé dans le monde d'avant et achevé en ces temps où le paysage semble être une auréole de vie. Récit d'une planète à l'agonie, d'une civilisation égarée dans ses écrans numériques, réduite à la recherche de Bluetooth pour exister, seul échappatoire à l'heure de la dépression collective de nos sociétés paralysées par la pandémie.
Oui, on est entre dystopie et espoir, et ce contexte inspire Arthur Teboul.
Oui, tout à fait, le chanteur de Feu Chatterton bâtit alors le Palais d'Argile, une sorte de palais idéal où l'art, la musique l'emporte face à ces scénarios, disons, dignes de Blade Runner. On visite les lieux avec Arthur,
allons-y.
Vous êtes d'accord?
Allons-y.
Avec ou sans masque, hein? Ok,
allez.
On y va.
On essaye de bâtir une très belle chose avec toute notre ingéniosité, nous les êtres humains, et avec tous nos efforts et notre orgueil. Et en même temps, il faut savoir que même les plus hautes tours, à la fin, redeviennent poussière, parce que nous n'avons entre nos mains que de l'argile et de la terre, et qu'un peu de pluie suffit à détruire. Alors si on est pessimiste, on dit que c'est tragique et on arrête de bâtir, et si on accepte, on se dit que ça vaut le coup, parce que quand même en chemin, on aura fait quelque chose. Et pour bâtir en plus, souvent il faut être ensemble, il faut s'entendre, il faut se découvrir soi-même, découvrir les autres, dialoguer. Alors ça vaut le coup, même si ça finira poussière, d'essayer de faire de belles choses, quoi. On a commencé à l'écrire été 2019, environ avant le confinement, a été comme un révélateur qui soulignait tous les doutes et les angoisses et les craintes qu'on avait déjà dans nos vies, quoi. Dans ce monde hyper consommateur, très numérique, là c'est vrai que ça résonne encore plus fortement, mais c'est des questions qu'on se pose déjà.
Derrière leur écran total, les gens se régalent. La ville est à cran d'arrêt, visage pâle, c'est le carnaval. Mais où sont les enfants et les clairières d'opale dorénavant? Ah, que le cœur me fend, je me souviens mal du monde d'avant. Très mal. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale.
En rupture avec ses prédécesseurs, cet album Palais d'Argile, dont on aurait pu penser, vu le titre, qu'il serait un peu terre à terre, Marie en
mais
fait divinement.
Bon.
Voilà, Marie divinement, m'avez-vous dit, José, la rencontre du rock à texte avec l'électro.
Exactement, atmosphère post-apocalyptique, synthétiseur puissant, explosion de décibels, le tout signé Arnaud Robotini, grande figure de la techno française depuis 30 ans, et bien là, il est l'architecte sonore de cet album.
On a travaillé sur ce disque avec Arnaud Robotini. Et quand on a composé ce disque parle aussi de machines, parle aussi de technologie. On l'a composé déjà avec des synthétiseurs et des boîtes à rythme, enfin un côté très électronique. Et on allait le chercher pour affiner cet aspect-là, parce que c'était important pour nous de danser, tout simplement. Comme on sortait d'une grande tournée et qu'on avait envie de reprendre la scène, parce qu'on adore être sur scène tous ensemble, on avait envie d'un album aussi énergique. Et on peut parler de choses profondes, parfois tristes, mais ça doit pas empêcher de danser. Sur quel pied danser, on ne sait pas, mais danser quand même. Ça vient vraiment des choses qu'on aime, hein, de l'héritage. On a des maîtres, ce sont Barbara, Léo Ferré, Serge Gainsbourg, Alain Bachung. Il y a eu une époque en France, maintenant elle est assez lointaine, on n'était peut-être même pas vivants, où la chanson en français pouvait être et poétique et populaire. C'est-à-dire qu'on peut faire de la poésie sans penser que c'est réservé à une élite. Nous, on milite pour ça, parce que la poésie, pour nous, elle est partout dans le monde, elle est à la portée de tout le monde, elle est pour tout le monde, elle est une arme de joie, elle est une résistance. C'est pour ça qu'on puise aussi nos inspirations là-dedans, c'est qu'on essaye de ramener à nouveau cet aspect très décomplexé, très libre, fougueux, et en même temps qu'il soit très direct, quoi.
Mais qui dit pourquoi ? J'appelle à l'aide. Oh, j'ai un cookie. Les navigateurs veulent mieux te connaître. C'est le coucou.
Avec leur univers décalé, on a là José, le fer de lance de la pop made in France.
Oui, entre mélodies soignées et lyrisme assumé, à chaque album, The Chatterton façonne un monde de tous les possibles.
C'est presque même un film choral, une comédie musicale, un truc de troupe. Parce que au départ, on a composé ce disque pour le jouer dans un théâtre. Et le virus est arrivé, du coup on a dû annuler une semaine avant la première. Je pense que c'est pour ça que ça rejaillit comme ça. Le disque, il a cet aspect théâtral. Aussi parce qu'on sent en cette période, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'un esprit comme ça, collectif et de troupe. Et ça, c'est une chose que nous, on aime beaucoup partager au sein du groupe. Parce que le disque, il parle de plusieurs voix. Avant, jusque-là, on pouvait dire que c'était moi qui parlais. Là, il y a des personnages différents dans les chansons. On peut entendre une femme, on peut entendre un vieux magicien malicieux, d'autres fois peut-être une panthère. On a écrit des choses qui parlent de l'époque. On a envie de les raconter maintenant aux gens. Et mine de rien, on constate qu'on n'est pas beaucoup nourri. On nous donne pas beaucoup de choses. Donc il y a de la place. J'ai beaucoup d'espoir, tout simplement, parce que même si on peut pas se voir, même si on peut pas encore se retrouver sur scène, il y a déjà un lien fort qui est en train de se tisser avec les gens qui écoutent l'album. Cette période, elle nous pousse quand même à avoir un rapport au monde différent. Le Palais d'Argile vous ouvre ses portes. Bienvenue dans un monde nouveau. Vous êtes chez vous.
Palais d'Argile, le troisième album de Feu Chatterton qui n'est donc pas au bout du rouleau. Merci José.
I love you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden star.
Autre ambiance, mais c'est cool, disait à l'instant notre technicien réalisateur Victor Hull, et je suis bien d'accord avec lui. Ça s'appelle Hey, That's No Way to Say Goodbye. C'est le titre de cette chanson de Leonard Cohen. Évidemment, ça a été la réaction de bien des admirateurs du chanteur en apprenant sa mort il y a 5 ans. Et aujourd'hui, Fanny, une bande dessinée revient sur son parcours.
Son titre, Leonard Cohen sur un fil, elle est publiée chez Casterman et signée Philippe Girard. Philippe Girard, il est canadien, tout comme le chanteur.
Moi, j'habite à Québec, à 200 km à l'est de Montréal. Leonard Cohen, lui, vivait à Montréal. Et puis donc, il est venu donner un spectacle à Québec. Et après 2 ou 3 chansons, il a un peu interrompu le spectacle, puis il a dit « Si j'avais su que vous m'aimiez autant, je serais venu avant ». Et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit « Wow, peut-être que ce gars-là, qui était tellement aimé à l'extérieur de chez lui, a souffert d'un déficit d'affection chez lui, dans son propre pays ». Je suis sorti de ce spectacle-là quand même très marqué par cette affaire-là, parce que j'avais l'impression que s'il y avait vraiment un ambassadeur unanimement reconnu de la culture québécoise, même si c'est un anglophone, c'est bien Léonard Cohen.
C'est un régal. Hein. Et la bande dessinée nous fait revivre, entre autres, Fanny, les jeunes années de Leonard Cohen à Montréal.
Nous sommes alors à la fin des années 40. Leonard Cohen est adolescent et il veut devenir écrivain. Il a touché ainsi à plusieurs domaines artistiques au fil de sa vie.
C'est quelqu'un qu'on a donné pour fini à plusieurs reprises et qui, à chaque fois, a réussi à se relever, à renaître de ses cendres et à remonter au sommet. Au début de sa carrière, il souhaitait être poète. Il l'a été, d'ailleurs. Il a publié des recueils qui ont été bien reçus par les critiques, mais il ne gagnait pas sa vie avec ça. Il n'arrivait pas à faire assez d'argent pour vivre. Donc, après ça, il a décidé de s'essayer comme romancier. Même chose, il a eu un succès d'estime, mais pas vraiment de succès commercial. Et c'est par la suite qu'il a décidé de devenir chanteur. D'abord, en écrivant des chansons qu'il avait beaucoup de difficultés à interpréter parce qu'il était très timide. Il a prêté ses chansons à d'autres. Et puis, tranquillement, pas vite, lui-même est devenu un chanteur. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Chanteur de folk d'abord, puis de musique plus pop, et ses chansons vont devenir cultes.
Parmi ses titres les plus célèbres, Alléluia, que l'on entend donc en ce moment. Mais c'est seulement depuis sa mort, en 2016, que tout le monde fait le lien entre le titre et l'auteur.
Il y a des versions d'Alléluia, n'en plus finir. Je pense qu'il y a quelque chose comme 100 réinterprétations d'Alléluia. Et quand lui a indiqué la chanson, même sa compagnie de disques ne la trouvait pas fameuse. Ils avaient l'impression que c'était pas nécessairement assez commercial, que ça avait plus ou moins de potentiel auprès du public habituel. Et c'est parce que d'autres l'ont reprise et parce que c'est devenu, j'ai envie de dire, une chanson phare, que tout à coup, on a réalisé que c'était lui l'auteur de cette chanson-là. Et ironiquement, c'est le seul numéro 1 que Leonard Cohen a eu dans les hit parades, et ce numéro 1-là, il l'a eu après sa mort.
Il y a d'ailleurs un extrait dans la BD où Leonard Cohen s'agace du fait que plusieurs personnes lui demandent successivement s'il est le chanteur du titre de Jeff Buckley ou de John Cale.
Bah oui, parce que ce titre n'a connu que des succès, mais des succès après la mort de Cohen.
Oui, et la mort, c'est un élément central de cette BD de Philippe Girard.
Spontanément, j'ai dessiné une étoile de David sur une feuille à côté de moi parce que Leonard Cohen était juif. Sans réfléchir, là, je me suis dit que la mort de Leonard Cohen était au centre de l'étoile. Et que chacune des pointes de l'étoile pourrait représenter une décennie significative de son existence. Pour chacune de ces décennies-là, j'ai décidé de me concentrer sur un objet, une femme et une chanson. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand.
Et alors Fanny, quelles sont les différentes thématiques explorées ici?
Il y a par exemple son rapport à la spiritualité, puisque Leonard Cohen a passé du temps dans un monastère bouddhiste en Californie, et qu'il est juif, on l'a dit. Il est aussi question de ses excès entre alcool, drogue et dépression. Et puis de son rapport aussi aux femmes, Marianne bien sûr s'amuse, mais aussi Janis Joplin par exemple, et puis Suzanne. Suzanne comme le titre d'une de ses chansons les plus célèbres, mais Leonard Cohen va rencontrer plusieurs déboires.
Un des arrangeurs qui avait travaillé en studio sur sa chanson, Suzanne, l'a convaincu de lui céder les droits de sa chanson. Donc, Suzanne, qui a été sa chanson la plus populaire pendant des décennies, il n'a pas reçu un centime sur ces chansons-là parce que c'était quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir avec la création de la chanson qui en récoltait les droits. Et l'autre problème qu'il a eu, c'est que, bon, c'est ça, son agente, au tournant des années 2000, est partie avec la caisse. Donc, du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans un sou, complètement ruiné, et il a été obligé donc de recommencer à faire des tournées. Suzanne takes you down to her place
near the river. You can hear the boats. Et tout ça, évidemment, c'est évoqué dans la BD, Fanny.
Oui, Jean-François, et ce qui est agréable dans la façon dont Philippe Girard l'a pensé, c'est que la musique, bien sûr, est omniprésente, mais ses titres sont évoqués à travers tout un tas de petits clins d'œil, comme ce moment où il s'achète un imperméable bleu, et les dialogues aussi sont tout en sobriété, comme son trait.
Évoquer l'univers imaginaire, la texture vocale, toute la profondeur et j'ai envie de dire aussi toute l'étendue de ce qui se passait dans les mots de Leonard Cohen dans une autre langue, c'est quand même un immense défi. Je voulais pas tomber dans l'ironie ni dans la caricature. Leonard Cohen étant un poète, c'était pas quelqu'un qui disait n'importe quoi et qui parlait pour rien dire. Quand j'ai fait parler Leonard Cohen, je voulais pas qu'il ouvre la bouche pour dire des choses banales ou pour dire des choses qui auraient pu détonner par rapport à l'essence de ce qu'il était. Like a bird
wire like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free, like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons.
L'essence de ce que Leonard Cohen était, donc un poète épris de liberté, comme il le chantait dans Like a Bird on a Wire, littéralement comme un oiseau sur un fil.
Leonard Cohen sur un fil, c'est d'ailleurs le titre effectivement de cette bande dessinée signée Philippe Girard, à découvrir chez Casterman. Merci beaucoup Fanny, je pense que je vais m'y plonger, en musique évidemment.
L'histoire est un voyage entre les forêts. Le village du sommet bleu des Alpes, au creux du grand secret.
Berries, nous sommes tirés de son second album Encounter. Alain, alors quel était son désir avec ces nouvelles chansons ?
Ou ses tunes, comme l'on dit chez elle. Le long format de cette autrice, compositrice, interprète québécoise est un reflet de différentes réflexions, impressions et émotions, avec le désir de composition qui s'ouvre sur le monde. Mais quel en est le thème principal, Bérise ?
Le disque parle évidemment de toutes sortes de sujets. Je dirais beaucoup teinté par la mort, par la disparition, qui est pour moi quelque chose qui m'attriste évidemment comme tous les êtres humains, mais qui me fascine aussi en même temps, ce rapport un peu tordu qu'on a par rapport à la mort, c'est-à-dire on fait un peu de déni par rapport à un truc qui va forcément arriver un jour ou l'autre et on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse profondément, qui me fascine et qui teinte énormément ma vie au quotidien en me disant que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Si je suis vraiment honnête avec moi-même, je pourrais mourir dans 5 minutes comme je pourrais mourir dans 50 ans. Puis ça, c'est en ce moment, on le vit de plus en plus à cause de cette pandémie-là qui nous rapproche tranquillement pas vite de la mort. Chose qui n'était pas le cas début 19e, la mort était très présente dans nos vies. Elle l'est de moins en moins, ou en tout cas, je sais pas, on essaie de la cacher. Et je pense que c'est une question culturelle aussi. Je pense que si on va dans d'autres pays, c'est complètement différent. Mais je sais qu'ici, il y a un certain déni, une certaine peur, voire même un dégoût. Et je trouve ça quand même troublant. Ouais, je dirais qu'une grosse partie du disque qui aborde ce sujet-là.
La Québécoise Bérise, qui est aussi une chanteuse passionnée d'histoire.
Et qui, lorsqu'elle regarde notre époque, la trouve incroyable, très riche pour les artistes et donc pour celles et ceux qui font de la musique aussi. When the music starts, lorsque la musique démarre, chante-t-elle dans Out of Touch. Quelle pourrait être cette mélodie que l'on entend dans cette chanson?
En fait, j'écoutais beaucoup Aretha Franklin, des classiques là, d'Aretha Franklin. J'étais dans un chalet dans les cantons de l'Est, et j'avais tout un système de son vraiment chouette. Quand je me levais le matin, je choisissais des chansons en particulier. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de très fort quand la musique commence. Du silence au début de la première note, cet espace-là est fascinant.
Out of Touch, et vous le disiez Alain, Bérise a de fortes envies d'exportation pour son spectacle.
Pour ce disque Encounter, Bérise voulait explorer musicalement et elle aimerait en effet présenter des spectacles dans de nombreux pays avec différentes ambiances, mais au Québec, Bérise note qu'ils ont une culture particulière qu'ils veulent protéger et qui peut parfois engendrer un réflexe de fermeture, ce qu'elle peut comprendre, mais il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir, remarque-t-elle. Sortons de nous-mêmes s'il vous plaît, parce que c'est parfois lourd, lance-t-elle. Alors, où part-on, Bérise ?
Une amie qui habite en Afrique du Sud et qui sort avec un musicien zoulou. J'aimerais travailler avec ce gars-là, par exemple. J'ai de la famille en Nouvelle-Zélande. J'aimerais aller jouer en Nouvelle-Zélande. Je suis allée en Turquie. J'ai adoré. J'ai envie, évidemment, c'est absurde maintenant de penser à ça, mais j'ai envie de voyager. J'ai toujours eu envie de voyager. Et j'ai envie surtout de découvrir à travers la musique, la culture, les gens. Je trouve que la musique, c'est un lien extraordinaire Et c'est surtout un langage universel, en fait. J'ai écouté beaucoup de musique malienne, camerounaise, péruvienne, chinoise même. Il y a vraiment quelque chose qui me fascine dans le langage musical en tant que tel. Le voyage, c'est l'expérience ultime, c'est les sens qui sont sollicités, qui sont stimulés, en plus des rencontres puis des échanges musicaux. C'est extrême. C'est vraiment chouette. J'ai hâte, en fait.
There is what we have. Alors, que nous dit-elle de sa musique, alors?
Ce qu'il y a une chose qu'elle a intégrée, c'est que quand l'on fait de la musique, on n'a aucun contrôle sur ce que ça va générer chez les gens. Quand elle compose une chanson, Berise est dans un état X qu'elle aime, et tant mieux si ça résonne, s'exclame-t-elle. Sa musique a accompagné beaucoup de familles. Ce qu'elle souhaite le plus comme artiste, c'est de créer un lien avec le public, parce que les humains, dans le fond, on est tous pareils, souligne celle qui faisait à l'instant allusion aux cloches d'église. Qu'est-ce que cela lui évoque?
L'église, le rythme de la vie, le côté solennel aussi de l'église, qui m'habite moi parce que j'ai été à l'école chez les religieux pendant 11 ans et dans mon école, il y avait une chapelle. Ça a beaucoup teinté en fait ma jeunesse. L'église, la religion, les cloches, c'est quelque chose que je trouve quand même vraiment fascinant. Dans tous les villages, il y a un clocher. Au Québec, on dit la province des 1000 clochers, ou si je me trompe pas, 10 000 clochers peut-être. En tout cas, il y en a partout. Je trouve que c'est magnifique en fait, c'est un objet magnifique. C'est fait à la main. Ouais, je trouve ça chouette. Can I get to be stronger? Can I get to
speak? I need something to get over. Over Me, Berry, sur son second disque Encounter, sorti chez Bon Sound Québec. Merci Alain, merci également à Fanny, Amélie et José. Dans un instant, le journal sur RFI. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi avec Youssoupha pour son album Neptune Terminus chez Believe. Et vous m'en direz des nouvelles.